leur chant. Orchan, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, Peter Sloterdijk, émission numéro 2. Peter Sloterdijk, revenons à l'élaboration de vos concepts philosophiques. Vous avez fait des livres, Sphère 1, Sphère 2, qui sont devenus des systèmes philosophiques. À partir de quand et comment s'élabore à partir d'une idée tout un système? Et est-ce que vous empruntez à différents champs disciplinaires?
Mais il reste toujours un élément cohérent, c'est la question...
De l'intuition initiale?
Oui, l'intuition initiale, c'est que le cercle n'est pas vide.
Il est plein.
Il est plein ou il est animé. C'est peut-être une alternative au terme plein, parce que il n'est jamais massive, mais il est rempli d'une animation.
C'est-à-dire de différentes énergies.
Et le cercle peut être le lieu de rencontre de plusieurs énergies. Et le pluralisme des énergies forme le cercle. Dans le premier volume de mon livre sur les sphères, je développe une théorie assez exigeante du couple. Je dis qu'il n'y a pas d'individu abstrait. Ou seulement dans l'abstraction, une fausse abstraction, on peut parler d'un individu. En réalité, il n'y a que des couples.
Nous sommes doubles.
Nous sommes doubles.
Dès notre origine.
Oui. Et que, normalement, on ne voit pas la deuxième partie du couple. Parce que l'individu semble être... Une forme psychique douée de la faculté de auto-accomplissement. On ne voit pas la deuxième partie, mais elle est toujours là.
Et comment essayer d'y parvenir, à comprendre notre complétude?
Il faut commencer par établir la liste des doubles qui nous accompagnent sans qu'on les voie toujours. Et ça commence par un objet de transition dont parlent les psychanalystes jusqu'à la conception de Dieu, de l'être suprême. Il y a toute une échelle d'accompagnateurs invisibles qui forment en même temps la structure de la psyché complète. Mais la complétude n'est pas faite pour devenir robuste et inébranlable, mais c'est plutôt comme un membrane, un système de croissance. On peut accompagner l'âme de l'homme de plusieurs façons. Et ça commence par l'existence intra-utérine, et ça peut monter jusqu'à l'idée du jumeau divin connu dans la mythologie des manichéens.
Donc vous empruntez aussi bien aux rituels chamaniques, aux théories freudiennes et jungiennes, qu'aux différents comparatistes à travers le monde, Est-ce qu'il n'y a pas aussi, notamment dans cette théorie des sphères, Peter Sloterdijk, des emprunts aussi au bouddhisme?
Certainement. Certainement. J'ai passé pas mal de temps à étudier les textes de sagesse de l'Orient, y compris, bien sûr, le bouddhisme. Moi, personnellement, je suis plutôt impressionné par le hindouisme. Hein, parce que j'ai passé un certain temps dans ma jeunesse en Inde. Hein,
dans des ashrams.
Oui, mais je pensais que j'étais en Inde. Mais à vrai dire, après mon retour, j'ai découvert que j'étais en Californie. Il est facile de confondre, parfois de confondre l'Inde et la Californie, parce que les gens qu'on rencontre là-bas incarnent une sélection de la côte ouest des États-Unis. Ça forme un mélange bizarre d'américanisme et de civilisation indienne.
Mais considérez-vous que la philosophie soit, ben, on revient un peu à Nietzsche d'ailleurs, soit un art de la prophétie, de la compréhension d'un futur qui s'approche, plutôt que le commentaire de l'histoire de l'Occident?
Je suis sûr que la philosophie post-heideggerienne peut parfois assumer une qualité prophétique, hein, et que
elle le fait très peu, à part vous, hein, en ce moment, même dans les 30 dernières années du XXe siècle.
Oui, c'est juste, mais cela tient au fait que la philosophie est devenue une faculté universitaire et la profession du philosophe s'est rétrécie dans la mesure où la compétition académique a obligé les collègues de produire une sorte de littérature qui est lisible exclusivement pour leurs collègues.
Mais c'est pas ce que vous pratiquez, y compris dans vos contradictions, Peter Sloterdijk, parce que vous êtes encore, je crois, recteur de l'université de Karlsruhe. Donc vous êtes en même temps à l'intérieur de l'institution, et pas n'importe quelle institution, une des plus importantes d'Allemagne, une des plus novatrices aussi. Et en même temps, vous contestez, je crois, dans votre œuvre, le fait même que la philosophie soit une profession universitaire.
Vous parlez d'un épisode révolu dans ma vie, heureusement.
Vous n'êtes plus recteur. Et content de ne plus être recteur.
Je suis très content de ne plus l'être, après 14 ans.
Mais pourquoi? Vous avez laissé des traces, des élèves.
Oui, mais tout cela doit vivre sans que le maître soit pressant. Je commence à comprendre la beauté de la retraite en tant que mot et en tant que chose. Se retirer, hein, c'est un geste magnifique. Et ça ressemble peut-être même au geste principal de la philosophie qui consiste à faire un pas en retour. Et se retirer et faire un pas en retour, ça revient presque à la même chose.
Est-ce qu'il y a une cohérence à l'intérieur de votre parcours philosophique, Peter Sloterdijk? Parce que quand on lit vos œuvres, on est très impressionné par ce côté pique de la Mirandole, cet immense savoir que vous avez dans beaucoup, beaucoup de disciplines. Et on est très impressionné aussi de voir comment, à partir de certaines intuitions, vous allez construire peut-être pas des systèmes, mais en tout cas des théories. Donc, comment naît un concept chez vous?
Ça, je ne sais pas. Mais je crois que il y a une sorte de un esprit de la cohérence qui possède des qualités qu'on appelle autopoétique. C'est quelque chose qui se produit par soi-même.
C'est l'écriture elle-même qui produit du concept.
Parfois, je suis surpris que mon œuvre soit tellement cohérente. J'aurais préféré être plus erratique, plus énigmatique, moins calculable. Mais finalement, je ne découvre que des cohérences, des correspondances. Et finalement, j'ai fait une quarantaine de livres en 30 ans. Ils pourraient tous être dans un seul volume.
Mais c'est peut-être la poésie qui est justement le lien de cohérence entre les différentes disciplines que vous abordez. La poésie et puis peut-être une forme d'engagement, peut-être pas au sens sartrien du terme, mais d'être dans le monde.
Le seul livre qui ne pourrait pas rentrer dans un recueil de ce genre, c'est celui que je suis en train d'écrire maintenant et que j'appelle un roman érotique. Ça ne colle pas avec le reste, mais néanmoins, je crois que il y a un lien profond entre ce livre-là, que je vais appeler The Schelling Project, hein, c'est une sorte de roman, avec le reste. Parce que ça touche des problèmes dont j'ai parlé aussi dans mes travaux antérieurs, le problème de l'intériorité de l'érotisme. Qu'est-ce que la nature a commis une erreur ou un coup de génie au moment où elle proposait de pondre les œufs dans le corps des femelles. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Un bon insecte, un oiseau, les dinosaures, les reptiles, tous les animaux honnêtes pondent leurs œufs dans un milieu extérieur. Mais quel enfer de vouloir pondre les œufs dans le corps de la femme. Et ça crée une réaction en chaîne de conséquences horribles. C'est le début de toute indiscrétion, parce que tout à coup, le mâle est condamné à se poser la question « comment j'arrive de me rapprocher de l'endroit où l'œuf se cache ?» Alors, c'est le début de toute indiscrétion, toute la fatalité érotique commence ici. Et c'est aussi une question philosophique, si vous voulez. Et pourquoi la nature a accordé un prix tellement élevé en entourant l'érotisme par le plaisir? Ça ne sert à rien. Si la procréation est quelque chose qui devrait avoir lieu de toute façon, le plaisir est un don superflu dans l'affaire. Mais néanmoins, il est là et on ne sait pas vraiment pourquoi. Là, il y a un aspect mystérieux. Et pourquoi le plaisir de la femme est tellement plus fort que celui du mâle?
Vous n'en savez rien. Hein? Vous aimeriez bien savoir, mais vous n'en savez rien.
Non. Non, neuf fois. Le dernier mot dans mon histoire appartient à ce clairvoyant grec qui s'appelait Tirésias. Qui possédait le privilège d'avoir changé de sexe à plusieurs reprises. Et c'est la raison pourquoi il sait que le plaisir de la femme est 9 fois plus fort que celui de l'homme. Mais il a été aveuglé par la déesse Héra. Pourquoi ? parce qu'il avait trahi le secret des femmes. Et c'est lui qui aura le dernier mot dans mon roman.
Mais on sent bien à travers votre œuvre philosophique que la femme semble supérieure à l'homme, en tout cas dans vos livres, Peter Sloterdijk. Mmh. Mais alors, j'ai lu que vous aviez une fille, ça je sais que c'est vrai, mais j'ai lu que cette fille, vous qui êtes quand même un libertaire, issu de cette... de cette génération qui a connu 68, les conséquences de 68, etc. J'ai vu que vous aviez mis votre fille dans un internat religieux. C'est vrai ?
Oui, oui, tout à fait. Parce que c'était le dernier véritable lycée qui a offert un enseignement sérieux. Les autres lycées en Allemagne sont en pleine décadence et je voulais qu'elle fasse ses études dans un cadre plus sévère. C'est tout.
Donc vous êtes père autoritaire.
Non, pas autoritaire. Au contraire, je suis probablement trop mou pour... pouvoir être un père autoritaire. Mais pour l'éducation, je pensais que pour la fille entourée par d'autres filles pendant une certaine période de sa vie, c'était la meilleure chose qui puisse arriver.
Il ne fallait pas qu'elle rencontre les garçons trop vite, quoi.
Non, mais tout s'est très bien passé.
Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant, votre fille ?
Elle fait ses études à Berlin. Elle vit dans un joli appartement à Berlin.
Elle a le droit de sortir, son père lui donne l'autorisation. Alors, je voudrais revenir à certains épisodes où vous avez été peut-être mal compris, parce que vous êtes un homme iconoclaste qui semait la zizanie quelquefois. Vous êtes un homme traduit dans des trentaines de langues, vous êtes un homme de best-seller, et vous êtes un homme qui, quelquefois, avait utilisé des mots qui n'ont pas été compris dans leur acception pleine et entière. Je veux parler notamment de cette polémique qui a eu lieu il y a maintenant une bonne quinzaine d'années à propos de la publication de ce texte qui s'intitulait « Règles pour le parc humain » et qui vous a opposé à l'autre grand philosophe, Habermas. Que s'est-il passé ? Comment avez-vous voulu renouveler ou interpréter la pensée de Heidegger ? Et que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui ? Ça portait sur des sujets très graves, puisqu'il s'agissait de l'eugénisme, du nazisme.
Mais normalement, le débat n'aurait pas dû parler de eugénisme et des choses comme ça, mais tout simplement de la question qu'est-ce qu'il y a avant l'éducation verbale. Et je me disais que l'humanisme classique est en train de s'épuiser. Aujourd'hui, on parlerait de tout cela dans un ton radicalement différent, parce que tout le monde a compris que nous vivons dans une sorte de révolution médiatique. Et on ne sait plus vraiment ce que éducation veut dire si tout s'est mis en marche ou tout devient proie de la du reformatage digital. Et là, si vous voulez, ce livre est une sorte de notturno philosophique où je me pose la question qu'est-ce que devient l'éducation à un moment où la lecture classique est en train de disparaître. Jusqu'ici, on pouvait se dire que c'était la lecture qui a maintenu l'idée de l'humanisme. Et je parle de humanisme scriptural. Et je cite Jean-Paul qui disait « Les livres sont des lettres un peu plus grosses. » adressé à des amis. Bücher sind dickere Briefe an Freunde. Et à partir d'une réflexion de ce genre, je dis que déjà au début de la pédagogie européenne, Platon avait parlé de la nécessité d'une éducation formalisée. Et là, il utilise largement un vocabulaire pastoral, un vocabulaire issu du champ agriculturel et du métier des pasteurs. Alors, homme mouton ou homme bétail, c'est ça. Mais l'arrière-fond historique a fourni toute une gamme de fausses associations autour de cette métaphore pastorale.
Et puis il y a eu ce terme de dressage que vous avez utilisé et qui a été fortement contesté et peut-être mal interprété.
Vous savez quoi ? Je ne crois jamais à la mauvaise interprétation. Il n'y a pas de malentendu. Il y a de mauvaises lectures.
Vous pensez qu'on vous a fait un mauvais procès alors, parce que vous étiez trop incorrect ?
Il y a, à mon avis, dans toute ma vie, je n'ai jamais rencontré le moindre malentendu. Mais j'ai rencontré mille mauvaises lectures, ce qui est autre chose. Parce que la mauvaise lecture est voulue. Elle a une tendance, elle fait partie d'une lutte ou d'une campagne. Mais cela n'a pratiquement jamais à faire avec le geste innocent de mal comprendre. C'est une autre catégorie. Et toute la bataille qui s'est développée autour de cette petite conférence l'avait prouvé. D'ailleurs, j'avais déjà donné le même texte deux ans avant, dans un autre contexte, à l'université de Bâle, pour célébrer le 500e anniversaire d'un grand auteur humaniste en Suisse. Il n'y avait pas la moindre réaction. Mais il fallait monter la mauvaise lecture pour pouvoir mener ce genre de guerre.
Alors voici ce que vous écrivez dans ce texte, Peter Sloterdijk. Vous écrivez notamment, page 43, « L'un des traits caractéristiques de la condition humaine est de placer les hommes devant des problèmes trop lourds pour eux sans qu'ils puissent décider de ne pas y toucher en raison de leur poids. Cette provocation de la créature humaine par l'inévitable qui est simultanément le non-maîtrisable a laissé une trace ineffaçable dès le commencement de la philosophie européenne. Mieux, cette philosophie constitue peut-être elle-même cette trace, au sens le plus large du terme. Après ce qui a été dit, on n'est plus trop surpris que cette trace en particulier se révèle sous forme d'un discours sur la garde et l'élevage de l'être humain. C'est ça qui a commencé à faire polémique dans la publication de ce texte. Et ensuite, vous enchaînez donc sur une étude absolument passionnante d'un des passages, d'un des textes majeurs de Platon. Quand on relit ces textes aujourd'hui, on se dit qu'au fond, vous avez déjà pointé, c'était je crois en 99, vous aviez déjà pointé finalement l'importance de la biotechnologie dans la construction de l'être humain et non pas dans la nature de l'être humain.
Oui, c'est ça. La logique du discours est post-naturaliste. C'est clair.
Déjà, à ce moment-là, oui.
Déjà. Et tout mon discours, aussi dans la trilogie des sphères, est bien sûr un grand essai culturaliste. C'est sûr. Mais cela dit, il ne faut pas oublier que la moitié de la faculté philosophique consiste de personnages qui sont fiers de ne rien comprendre à la biologie. furieusement. Comme si c'était une trahison de leur métier de regarder ce qui se passe à côté. Donc, ils ont peur d'un savoir dangereux qui se développe ailleurs. Et ils refusent toutes sortes d'infiltrations d'un savoir biologique dans le savoir culturel. Mais à la longue, il est inévitable que les registres vont aller ensemble.
Alors qu'en est-il de l'humanisme aujourd'hui ? Dans tous vos livres, finalement, on peut dire que vous êtes une sorte de grand diagnostiqueur de la faillite de l'humanisme européen. Et je n'oublie pas que vous avez publié des livres très politiques, entre guillemets, notamment sur le rapport France-Allemagne. Qu'en est-il aujourd'hui de votre vision de l'Europe ? Vous avez publié un bouquin il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans. Quand on le relit aujourd'hui, on se dit que vous étiez peut-être optimiste parce que l'Europe ne va pas très bien. Qu'en est-il de l'humanisme et qu'en est-il du futur de l'Europe, selon vous, Peter Sloterdijk ?
Il y a 10 ans, il y a 5 ans, j'étais beaucoup plus optimiste qu'aujourd'hui en ce qui regarde l'Europe. Et cela pour une raison évidente, l'expérience de l'euro a miné les fondements de la conversion européenne.
À cause du surendettement de la Grèce, à cause...
Pas seulement
surendettement. De plusieurs vitesses de
citoyenneté. Non, mais je crois que l'euro a créé un corsage trop serré pour les nations. Parce que l'Europe peut entrer dans sa forme optimale si les écarts entre les nations restent flexibles. Et l'euro a créé une cohérence forcée qui provoque toutes les mauvaises réactions qu'on observe. Avec un peu plus de jeu entre les nations, tout irait mieux. Et l'atmosphère politique avant l'introduction de l'euro était nettement beaucoup meilleure que maintenant. Il y a trop de sources d'irritation créées par cette nouvelle monnaie expérimental.
Mais vous qui avez écrit un livre sur l'impôt et une possible redistribution de la richesse entre les citoyens, pensez-vous qu'on puisse revenir à une Europe d'avant l'euro, aujourd'hui, en 2016 ?
Je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. En allemand, on possède une expression très intelligente qui s'appelle Pfadabhängigkeit. Dépendance du chemin qu'on a déjà fait. Même si on a commis de grandes erreurs, on ne peut pas cesser de commettre les erreurs de nouveau parce que l'accumulation des effets des erreurs est tellement grande qu'on ne peut plus abandonner le faux chemin. Et je crois que c'est le destin de beaucoup de choses que nous appelons la politique. On a déjà commis trop d'erreurs pour pouvoir changer.
Alors que faire ? Nous allons écouter Angela Merkel. Ça nous paraît maintenant très loin.
Nous devons agir sur les causes qui font que ces réfugiés viennent à nous. Ça veut dire que, dans un premier temps, je dois faire en sorte que tous les pays d'Europe fassent ce qu'ils ont à faire, et pas seulement 4 d'entre eux. Ensuite, il faut améliorer les conditions de vie dans les camps des réfugiés de la région. Et puis, il faudra engager un dialogue avec la Turquie. Et enfin, nous devrons montrer aux gens que les choses vont rentrer dans l'ordre.
Que pensez-vous de votre chancelière ? Pour nous, elle a incarné une sorte de beauté philosophique, d'accueil des réfugiés. Et puis les derniers événements, les dernières négociations avec la Turquie ont un peu teinté autrement l'attitude d'Angela Merkel. Quelle est votre position aujourd'hui, Peter Sloterdijk?
Moi, je disais que le geste en tant que tel était très beau au début, et ce n'était pas nécessairement une erreur. Mais je disais en même temps, elle va revenir sur tout cela plus tard, et on s'avère qu'elle est revenue très tôt, et que maintenant elle cherche un partenaire pour faire la totalité des gestes d'aide qu'elle voulait éviter. Donc, il y a une nouvelle division de travail, la beauté pour les Allemands et la laideur pour les États du Balkan et la Turquie. Et je crois qu'à la longue, ça ne peut pas marcher. Parce que la laideur va nous rattraper et les Européens, tous ensemble, seront condamnés à se regarder dans le miroir et de se trouver moche, moralement. Inévitable.
Donc c'est de l'Orient que viendrait notre renouveau?
Certainement pas, parce que de l'Orient... En Orient, on aura tout ce système des camps des réfugiés qu'on ne veut pas construire ici.
Donc comment vous voyez, vous avez l'impression qu'on vit une espèce de crise de civilisation et une redéfinition de l'Occident?
Oui, c'est sûr. L'Occident doit se réinventer. Il perd beaucoup de son innocence. Ça, c'est le drame moral. Il doit pratiquer une politique de la laideur. On a condamné à pratiquer une politique de la laideur tout en adoptant une stratégie qui laisse aux Turcs et à d'autres nations l'essentiel de la laideur. Nous, on paye et le reste sera effectué par les autres.
Et ainsi, on marchande les droits humains.
Oui, c'est exactement cela.
N'avez-vous pas l'impression que justement que ce fameux humanisme dont l'Europe est issue est en train de se lézarder de tous les côtés?
Non, je ne crois pas. Parce que l'humanisme s'incarne déjà dans un système d'institutions auxquelles il ne faut pas porter atteinte. En ce moment, l'humanisme s'incarne dans les assurances sociales. Il s'incarne dans un système juridique relativement efficace. Il s'incarne dans une fiscalité distributive, etc., etc. Donc, l'humanisme ne doit plus se payer de mots. Il a déjà une matière dure, pour ainsi dire. Il existe déjà sous la forme d'architecture, sous la forme d'une civilisation matérielle où l'humanisme est incarné. Le droit de l'homme que nous appelons Freizügigkeit, c'est-à-dire la liberté de voyager, est incarné dans nos voitures et dans nos moyens de transport, etc., etc. Je crois que c'est plutôt une question idéologique que de vouloir observer la chute des valeurs. Je n'y crois pas. Non. Tout au contraire, le système social s'étend de plus en plus. Et la redistribution prend plus en plus de place autour de nous.
Et pourtant, le capitalisme déréglemente les rapports humains et vous en êtes un contempteur de cet ultra-capitalisme.
Ouais, mais je ne suis pas sûr que le discours sur l'ultra-capitalisme nous livre vraiment une bonne description de ce qui se passe.
Donc vous êtes anti-idéologue.
Anti-idéologue et surtout... je doute du discours français sur le capitalisme ou le néo-capitalisme, etc. Dans un pays où presque 60% du produit national passe à travers les mains de la fiscalité étatique, hein. Un système comme celui-là ne peut guère porter le nom de capitalisme. Hein. Partout ailleurs, on parlerait de semi-socialisme. Mais c'est une bonne vieille habitude de dénoncer notre forme de vie comme capitalisme, etc. Mais nous vivons dans des systèmes semi-socialistes avérés, un peu partout.
Mais quel serait le bon système social dans lequel nous pourrions mieux nous épanouir, selon vous ? Puisque vous êtes aussi un philosophe très engagé, vous avez fait des propositions sur la redistribution de l'impôt, sur une espèce d'économie redistributive qui inclurait une espèce d'égale liberté, quoi.
Non, ma proposition disait que il faut laisser tomber l'idée selon laquelle les impôts seraient les dettes du citoyen auprès du fisc. Je disais, il faut repenser l'impôt en termes de dons.
Ça, c'est difficile à faire passer en France, hein. Mais bon.
Mais, oui, mais personne a su prouver que le citoyen peut avoir des dettes auprès de l'État. Parce que l'État n'est rien sans les dons du citoyen. Mais c'est la tradition qui veut que l'État soit conçu comme donneur d'ordre, donneur de vie, le grand donneur, qui, dans cette mystification patriarcale, peut exiger... certaines prestations de la part du citoyen, et la nature des taxes serait la dette. Et là, je dis que c'est une erreur profonde. Tant que les taxes sont interprétées comme dette, on ne payera plus jamais en retour la dette publique.
Si Merkel vous propose d'être ministre de l'économie et des finances, vous acceptez ?
Je ne pense pas. Non, il faut tout simplement se rappeler ce que je disais sur la beauté de la retraite et de se retirer.
Alors, retraite active, est-ce que vous croyez encore à la catégorie de l'universel aujourd'hui, Peter Sloterdijk?
Si, absolument. Pour moi, l'universel, c'est la monade géologique que nous habitons. Je disais toujours que l'unicité ou la valeur de faire un de la Terre est logiquement plus dure que toutes les propositions que les théologiens ont fait jusqu'à nos jours pour interpréter l'idée de Dieu numérologiquement. Hein. Là, nous avons à partir 0, 1, 2, 3, 4 millions. Si nous comptons comme nos amis indiens, alors l'interprétation numérologique de la divinité est relativement floue. Même si nos amis islamisants prétendent être très très sûrs qu'il y a seulement un. Mais il n'y a pas mal de muslims ou ex-muslims qui, comme nous, sont convaincus que le véritable chiffre est zéro.
Et dans l'autre monde,
cette unité que j'ai appelée le monothéisme, le monothéisme exige une sorte de métamorale, une morale de la coexistence globale, pour laquelle j'ai proposé le terme co-immunité. Co-immunité. Et jusqu'à présent, nous avons créé des systèmes immunitaires locaux qui intègrent un certain nombre d'individus dans des grands complexes, plus ou moins efficaces. Mais les systèmes locaux se retrouvent toujours dans un état de guerre à l'extérieur. D'ailleurs, il y a un petit article dans mon nouveau livre sur la domestication des civilisations. Là, vous trouvez tous ces arguments. C'est quelque chose que j'ai raconté avec Stefan Hessel au Sénat il y a quatre ans.
Bon, bref, c'est une retraite très active alors, Peter Sloterdijk.
Ah, oui, j'espère. Ça sera une retraite qui devrait commencer par une véritable célébration. Et cette fête, je vais l'appeler mon Independence Day.
Peter Sloterdijk, je rappelle que tous vos livres sont publiés aux éditions Libella Marensel. Vous retrouverez l'abondante bibliographie de l'œuvre de Peter Sloterdijk sur notre site internet. Merci à toute l'équipe de Hors Champ, merci à Étienne Leroy, Cédric Châtelus, Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée. Thank you.